J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, voire un petit peu avant, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 30e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur saône-et-loirien de naissance et de cœur et oyonnaxien d'adoption, Philippe de Bise, dont les deux romans, L'enfant de Solutré et Sous le ciel rouge de juillet, Mondain, été 1944, sont parus respectivement le 27 février 2023 et le 16 avril 2024 aux éditions L'Astre Bleu et dans la collection Helium. Philippe, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Michel.
Bonsoir. Alors, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Alors, la définition exacte, c'est roman historique, donc romancier historique.
Bien.
Je tiens beaucoup à cette spécialisation sur l'histoire. Alors, en fait, l'idée, c'est d'amener la grande histoire par le biais de la petite histoire de chacun d'entre nous ou de nos familles, de nos ancêtres, etc. Et de l'amener dans son contexte global de l'histoire contemporaine ou ancienne.
Bien. Vous racontez dans votre premier livre vos aventures en vélo. Les livres avaient-ils leur place sur le porte-bagages?
Oui, alors quand j'étais jeune, j'étais toujours très... Ils n'étaient pas avec moi sur le vélo, mais c'est mes balades en vélo qui fertilisaient mon imagination, qui était déjà assez forte. Et puis, il a fallu attendre une maturation à l'âge adulte et le prétexte du confinement, du Covid, pour que je me lance dans l'écriture.
Alors, quelle place restait-il pour l'écriture, à part le vélo et puis la lecture?
Quand j'étais enfant, Oh, il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait le football et il y avait le dessin aussi. Donc, c'était assez dense, assez riche. Et c'est vrai que le vélo était un moyen de locomotion essentiel. Et quand on était jeune, de notre époque, on faisait forcément du vélo.
C'est vrai. L'histoire, donc plutôt la préhistoire, celle de la Roche de Solutré, vous êtes arrivé comment? Aussi à travers des livres?
Pas du tout. Alors en fait, au collège Saint-Exupéry, ce qu'on appelait les CES à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire et de dessin qui était un ancien instituteur. Il était aussi prof de maths pour d'autres classes et d'autres spécialités. Et il a vite vu que j'avais un coup de crayon et aussi une passion pour l'histoire ancienne. Et il m'a naturellement embarqué aux Beaux-Arts à Mâcon pour les cours du mercredi et également fait visiter le musée des Ursulines, notamment son domaine de prédilection, la partie préhistoire, archéologie. Et il m'a picousé, comme on dit, à cette spécialité.
D'accord. Vous habitez à Oyonnax?
Oui,
depuis plus de 30 ans.
Tout à fait, oui.
Quand est arrivée l'envie d'écrire un livre? Elle était présente depuis longtemps.
Alors en fait, cette envie, elle était latente. C'était dans mon inconscient. Et puis, il se trouve que j'ai repensé à un moment donné à la préhistoire, à tout ce que j'avais vécu, peut-être aussi par le fait du décès de mon ancien professeur que j'avais appris. Et du coup, j'ai eu à un moment donné une rencontre qui a fait le déclic en 2018, août 2018 à Aigues-Mortes, où j'ai été voir l'exposition de Titouan Lamazou. C'est le premier vainqueur du Vendée Globe et qui a également qui est un artiste et qui fait le tour du monde où il prend le temps d'écrire et de dessiner et de peindre sur la thématique des femmes dans le monde, dans tous les pays, notamment les pays où la vie n'est pas simple, on va dire. Et du coup, comme c'est un ancien élève d'Éric Tabarly, et que Tabarly c'était mon idole absolue, j'ai été voir l'exposition et j'ai fait la queue pour avoir une dédicace de Titouan. Et puis, il m'a demandé, on a discuté un petit peu, il m'a demandé d'où j'étais. Quand j'ai dit Solutré, il m'a dit: ah, Solutré, c'est un lieu magique que j'ai eu la chance de visiter avec François Mitterrand à l'époque, qui emmenait régulièrement des artistes, des peintres, des gens qu'il avait envie d'emmener là-haut, hein, pour le lundi de Pentecôte. Et puis, il m'a dit, Solutré, pour moi, en tant que navigateur, ça symbolisait un navire, la proue d'un navire en train de couler. Et puis, j'ai fantasmé sur cette image qu'il m'avait laissée en tête. Deux ans plus tard, je me suis décidé à écrire. Voilà.
Ah, écrire un premier livre, ça ne s'invente pas. Comment fait-on ?
C'était dans les tripes. Et puis, à un moment donné, si je peux être un petit peu cru et direct, c'est comme une envie de vomir et ça sort. Et du coup, j'ai pris un stylo et c'est comme si j'étais possédé. Et toutes les idées venaient et je les couchais sur le papier. Et c'est comme si quelqu'un avait pris ma main et qui guidait l'écriture. Ça s'est fait d'un naturel absolu. Et en tous les cas, pour la première forme, la mise en forme, le brut, on va dire. Après, j'ai eu la chance d'avoir des amis, quelques amis qui m'ont relu et quelques amis aussi qui m'ont aidé à le structurer. Notamment une amie en retraite du côté de Nantua qui m'a dit « Philippe, si tu veux, je te donne un coup de main ». Et ancienne collègue de travail. Et je crois qu'on a bien rigolé en peaufinant tout ça. Et puis, elle m'a aussi botté les fesses une ou deux fois. Parce que j'avais envie d'arrêter, je disais non, mais ça n'ira pas plus loin qu'un petit manuscrit personnel. Et finalement, de fil en aiguille, trouver un éditeur. Et puis, c'est toute une aventure d'écrire, en fait.
Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre racontant l'histoire en parallèle de deux enfants à 25 000 ans d'écart, Cago, à l'ère du paléolithique supérieur, du solutréen en particulier, et vous-même, dans les années 70?
Mais en fait, je voulais parler de la préhistoire, mais... Souvent, un premier roman est plus ou moins autobiographique et j'avais envie de parler de mon vécu aussi de la préhistoire, soit par mon ancien professeur, donc M. Barthélémy, Albert Barthélémy, et aussi par le fait qu'en 1994, j'ai eu la chance de participer aux fouilles préventives de l'autoroute A404 entre la plaine de Nantua et puis Oyonnax, où nous avons découvert... je me suis proposé comme bénévole pendant quelques semaines au chef de fouille qui m'a accepté gentiment. Il m'a dit, il y a une seule condition, c'est que vous veniez, on vous offre le restaurant tous les jours. Donc, je ne pouvais pas refuser. Et j'ai vécu mon rêve de gosse éveillé, c'est de travailler au milieu de gens absolument passionnés par l'archéologie, par les fouilles. Et j'ai fait des fouilles et j'ai fait des dessins qui d'ailleurs ont servi aussi au rapport de fouille final du chef de la FAN. On appelait ça la FAN à l'époque, les fouilles archéologiques nationales. Et là, c'était vraiment un cadeau absolu qu'ils m'ont fait en m'acceptant parmi eux.
Vous vous êtes retrouvé aux éditions L'Astre Bleu, une édition associative à compte d'éditeurs, exclusivement, et dont le but non lucratif est régi par la loi 1901 des associations. Oui. On est loin de l'image des maisons d'édition que l'on peut avoir en tête.
Alors déjà, j'ai découvert par hasard cet éditeur en offrant un livre à ma femme et puis j'ai regardé le nom d'éditeur, j'en cherchais plus ou moins un. L'Astre Bleu, dans le Beaujolais, j'ai dit c'est ma région d'origine, donc je leur ai envoyé mon manuscrit. Ils m'ont dit on vous répondra d'ici quelques temps et puis ils m'ont rappelé et ils m'ont dit banco. Alors à posteriori, j'ai eu beaucoup, pas de chance, mais être référencé par ces gens-là, qui sont des puristes absolus de l'édition, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup des gens comme eux. Ils ont une ligne éditoriale très stricte, très rigoureuse, où ils ont besoin de sentir des choses très fortes, qui emportent le lecteur avec un style enlevé, mais également des choses fortes de l'humanisme, etc. Et donc ce couple, Henri et Eliane, m'ont donné ce banco, ce hockey, hein, c'est pas cette chance parce qu'ils reçoivent à peu près 90 manuscrits par an, ils en sélectionnent 3-4, donc ils sont très très rigoureux dans leur choix. Mais par contre, être référencé par eux, c'est chouette. Et puis alors après, un deuxième roman, c'est bien sûr, quand on écrit un premier roman, on m'avait dit, tu verras, en cours d'écriture, tu auras envie d'en écrire un deuxième parce que ça arrive certaines fois et ça n'a pas loupé. Et par contre, là, j'aurais fait part de mon souhait, mais ils m'ont dit, attention, Philippe, on repart à zéro. Là, on t'aime bien, mais on ne te connaît plus. Et parce qu'on considère qu'il faut garder ton jus. Tu as un jus à toi propre, tu as un style. Donc, montre-nous que tu l'as affirmé par un deuxième roman. C'est ce que j'ai fait. Et donc, voilà, l'aventure a continué.
en quoi consiste la collection Helium des éditions L'Astre Bleu dans laquelle vous êtes retrouvé?
Alors la collection Helium, ce sont des romans généralistes. Alors moi, ma spécificité, c'est le roman historique. Donc je parle, encore une fois, par le biais d'une petite... La petite histoire nous amène dans la grande histoire. L'idée, c'est de faire découvrir simplement des périodes de l'humanité, des périodes où il se sont passées des choses fortes ou essentielles, donc comme la préhistoire, le paléolithique supérieur, le solutréen, et la juillet 44 dans les Mondains. En utilisant l'histoire de commun des mortels, nous-mêmes, nos ancêtres, etc., qui, par les hasards de la vie, vont se retrouver dans un univers qui s'appelle la grande histoire, tout simplement.
Astre Bleu est une maison d'édition située à la Chapelle de Guinchay, oui, en Saône-et-Loire, votre département de naissance, oui, et de cœur, oui, mais qui se trouve dans le Beaujolais et non dans le Mâconnais.
Oui.
Ça n'a pas été trop dur de trahir vos origines géographiques et ces vins que sont quand même le Viry-Clessé, le Saint-Véran, le Pouilly-Locher, le Pouilly-Vinzel et le Pouilly-Fuissé quand même.
Et le Saint-Amour. Oui, oui, non. En fait, c'est des endroits où j'allais en vélo fréquemment quand j'étais môme, mais ça fait partie de mes excursions. Je n'avais pas le droit d'y aller en fait, mais je le prenais parce que c'était un petit peu loin. Mais il faut savoir braver les interdits aussi pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, voilà.
Votre premier roman, donc L'Enfant de Solutré, est à moitié autobiographique.
Oui.
L'histoire de Cagou pourrait être celle de votre ancêtre, même si vous ne seriez pas né en Saône-et-Loire, mais dans l'Ain, à ce moment-là, si je suis bien le bouquin. Mais...
Alors, en fait, j'ai grandi à Replonge jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah. Replonge, une terre d'écrivains, apparemment. C'est Mélissa Dacosta qui,
oui,
Replonge aussi.
Mm-hmm.
Ouais. Et puis, à l'époque, il n'y avait que le pont de Saint-Laurent pour pouvoir aller de l'autre côté. Mes parents traversaient deux fois par jour pour aller travailler. Les bouchons devenaient infernaux. Mmh. Et finalement, l'idée pratique, c'était d'habiter à Mâcon. Donc, on a fait le grand bond. On a traversé le pont. Et puis, je me suis retrouvé libre de pouvoir aller à Solutré en vélo autant que je le voulais. Donc, c'était une bonne chose. Même si j'ai la nostalgie quand même de mon village d'origine, Replonge, où j'ai vécu pendant 12 ans les années les fortes de l'enfance, en fait.
Donc, voilà. Alors, l'histoire de Cagou pourrait-elle être celle de votre ancêtre?
Tout à fait, de nos ancêtres à nous tous ici, puisqu'en fait, le Solutréen, c'est une période, c'est la fin du paléolithique supérieur, l'âge de la pierre taillée, c'est l'apogée de la pierre taillée, c'est-à-dire qu'au départ, les hommes taillaient les silex pour fabriquer des outils de chasse ou de travail. Et finalement, ils étaient tellement doués que c'est devenu un art petit à petit. Donc, ça a duré 5000 ans quand même, le paléolithique supérieur. Donc, ce n'est pas anodin. Nous, notre civilisation post en zéro, elle a 2000 ans. Donc, et puis après, on a basculé de la pierre taillée. Il y a eu une époque transitoire de le mésolithique de 5-6 000 ans. Et après, on a basculé vers le néolithique, qui est l'âge de la pierre polie. Et justement, mon livre aussi fait un lien entre ces deux époques. Je n'en dis pas plus parce que l'enfant Cagou est certes le petit héros, mais il y a aussi un objet mythique qui est le silex, qui est le deuxième héros du roman.
Il y a des points communs entre vous et le personnage de Cagou. En quoi il vous ressemble ?
Cagou, en toute honnêteté, c'est le prénom de mon premier petit-fils qui s'appelle Thiago. Et quand il était petit, on lui disait « Comment tu t'appelles ?» Il disait « Cagou ». Et quelque part, c'est une transmission. C'est même pas quelque part, c'est certain. De même que le deuxième, il y a ce côté transmissionnel. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, voilà. J'ai inventé un mot peut-être. Et qui est aussi... c'est aussi un message par rapport au respect de l'homme vis-à-vis de la nature, à savoir que, est-ce que nos ancêtres du Solutréen étaient aussi des hommes aussi primaires et bestiaux qu'on le prétend? Non, parce que puisqu'ils ont inventé des outils, notamment le lanceur qui permettait de chasser à distance, de créer des modes de chasse par guet-apens entre les roches pour pouvoir tuer un maximum d'animaux et survivre, et pouvoir faire perdurer leur civilisation. Et à contrario, nous, on a énormément de moyens pour créer des choses diverses et variées, mais on les utilise souvent à mauvais escient, pour des fins commerciales. Eux, c'est grâce à eux, grâce à leurs inventions, qu'on est là aujourd'hui. Et ça, je pense que si on remet les choses à leur place, je pense même qu'ils étaient plus intelligents que nous.
Donc à la préhistoire, l'homme vivait en osmose avec la nature. À force de ne pas la respecter, on est en train de détruire notre civilisation. Vous êtes inquiet pour les futures générations ?
Oui, ben c'est le message d'alerte que je passe à la fin, hein, de toute façon, de ce premier livre. Je ne suis pas foncièrement écolo, hein, je suis réaliste, mais l'écologie, on est tous écologistes, puisqu'on a tous envie de continuer à vivre et que surtout nos enfants et petits-enfants vivent. Moi, j'en suis au stade du grand-père qui a connu des choses fabuleuses dans les fermes, où on allait chercher l'eau, la voir avec la bouteille, que l'eau, on pouvait la boire. Quand je faisais ça dans la ferme de mes grands-parents, au jour d'aujourd'hui, le lavoir existe toujours, mais les pesticides des viticoles interdisent de boire cette eau comme on la buvait avant. Voilà.
Même s'il y en avait déjà à l'époque, j'imagine.
Il y en avait aussi, mais à l'époque, ce fameux lavoir permettait d'avoir une eau pure, etc. Ah. Voilà.
Alors, à travers vous et Kago, le fils du chef et d'un clan de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, l'enfant de Solutré est aussi un livre d'histoire, de géographie et presque d'enseignement moral et civique. Il aurait sa place dans les collèges et les lycées. Votre écriture est très pédagogique.
Alors oui, d'ailleurs, quand je serai à la retraite dans un an, on m'a déjà sollicité pour intervenir dans des écoles. Et surtout, belle récompense pour ce livre. Il a été, au mois d'août, référencé par le responsable, le directeur du grand site de France, Musée de Solutré, qui m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, on a deux, parmi toutes les nombreux livres de notre librairie, qui est assez grande, assez forte, avec des livres essentiellement techniques sur l'histoire, la préhistoire. Il m'a dit, on a deux romans historique maintenant, puisque je référence le vôtre. Le premier, c'est celui du découvreur du site Adrien Arcelin, en 1800 et quelques. Et à l'époque, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de romantisme dans l'écriture et que c'est grâce au romantisme que les sciences telles que l'archéologie ont pu être vulgarisées auprès du grand public. Et ils s'en servaient de l'écriture romantique, à tel point qu'ils avaient lancé le mythe de la chasse à l'abîme, à savoir que les hommes préhistoriques faisaient courir les chevaux tout en haut de la roche pour les faire tomber en bas et ainsi les dépecer en bas. Bon, ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, le croc du charnier, là où il y a le magma d'os et de petits chevaux et de rennes, se trouve très proche du village, à 300 mètres à peu près, donc de l'aplomb de la roche. Donc ce mythe de la chasse à l'abîme reste un mythe. Bon, je le démolis gentiment de nouveau, parce que d'autres l'ont fait avant moi, des spécialistes dans leurs livres d'historiens. Mais toutefois, il faut reconnaître que grâce à ces légendes, eh bien, la paléontologie, l'archéologie ont pu être mis à la connaissance du grand public. Et là, c'était très fort quand même à cette époque.
Alors, on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque un peu plus d'un an plus tard, le 16 avril 2024, plus exactement, paraît votre deuxième roman, Sous le ciel rouge de juillet, mondain, été 1944. Oui. Alors, on se prend au jeu de l'écriture, on s'aperçoit qu'on a plein de choses et d'histoires à raconter.
Ben, c'est un virus. En fait, j'ai chopé le virus de l'écriture, soutenu par quelques amis, ma famille et aussi toujours l'astre bleu. L'astre bleu, j'en reparle parce que c'est des gens, Eliane et Henri, qui ont vraiment... ils ont une pureté dans leur... Ah, bien qu'ils soient de ma génération, voire plus pour Henri, qui pourrait être presque mon papa. C'est mon papa d'écriture, en tous les cas. Et donc, ils ont cette pureté qui fait qu'on a envie de les suivre et d'avancer. Et donc, ils m'ont incité, quand je leur ai proposé mon deuxième projet, alors un livre très différent, à savoir juillet 44, dans la région de Nantua, quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'il s'agit de la troisième opération de représailles allemande nommée Treffenfeld, champ de rencontre, qui s'est passée un mois après le débarquement en Normandie. Et donc Hitler avait, avec Klaus Barbie, qu'il avait missionné pour ça, avait décidé de faire très très mal, non plus au maquis en direct de la région des Mondains, puisque c'était une région de montagne où le maquis avait pu se structurer, notamment être connu grâce au défilé des maquisards à Oyonnax le 11 novembre 1943. Mais non, là, c'était prenez-vous-en à la population civile. C'est-à-dire que venant plutôt de la région de Lons-le-Saunier, par ici, Bourg-Mâcon et Lyon, ils ont convergé, donc trois colonnes de nazis et également des soldats mongols, vers la région de Nantua. Et dans chaque village où ils passaient, ils faisaient des exactions, des exécutions sommaires, des viols, etc. Ils brûlaient les fermes, etc. et pour arriver, point de champ de rencontre, Treffenfeld, dans la région de Nantua. Et donc, le fait marquant de cette période, qui est très courte, c'est un mois, hein, eh bien, c'est du 12 au 22 juillet, le martyr de Dortan, que l'on assimile à un Oradour-sur-Glane du département, où ils ont fait des exactions terribles, des tortures dans la cour du château, etc., sur des maquisards qu'ils avaient pris en otage. Donc moi, mon livre, il démarre dans le village de Brion. C'est au bout du lac de Nantua. Un fait familial que mon beau-père m'a rapporté, puisque enfant, à l'âge de 10 ans, il a vu son papa pris en otage suite à une dénonciation avec deux autres personnes du village, des paysans, donc, mis en joue devant le mur de la fruitière pour être exécuté. Et lui, c'était sous les yeux de sa femme et de ses deux enfants. Et donc, il a eu l'instinct de survie de se mettre côté rivière, puisque c'était à l'aplomb de la rivière de Loignin. Du Lange, pardon, pas de Loignin, il y a deux rivières dans ce village. Et au moment de la sommation du tir, il a débarroulé le long du terre-plein. Il s'est laissé porter par le courant, il est allé se cacher dans une grotte au-dessus du village. Donc tout démarre d'ici, avec tout un tas d'autres faits que des gens de la région m'ont rapporté, qui ont vécu des choses, eux étant enfants, autour de 10 ans. Et j'ai fait un amalgame de tous ces faits réels pour faire la trame de mon roman, qui démarre à Londres avec un jeune agent du service des services secrets américains, anglais, le SOE, Special Operation Executive, qui est parachuté dans la plaine des Chalons au-dessus d'Oyonnax et qui va devoir mener une mission pour donner un message à un chef du maquis qui se trouve dans les Mandins de l'autre côté, au-dessus de Chamoise, mais qui malheureusement, son agent de liaison meurt, ils sont pris dans un guet-apens d'une troupe allemande. Et donc, il se retrouve tout seul dans notre région très, très, très sauvage, avec la forêt, etc. Et c'est grâce à l'aide des civils qu'il va pouvoir retrouver le fil de le cheminement de sa mission et la mener à bien. Donc, ça traite de tout le rapport de la mise en danger que les civils ont pu... dans lesquels les civils ont pu se mettre et les risques qu'ils ont pris, eux et leurs familles, pour pouvoir aider les résistants à cette période post-débarquement.
Il n'est pas seulement question de guerre dans votre deuxième roman. La nature est très présente à travers les paysages et puis les animaux comme le lynx.
Oh, tout à fait.
Hein, comme dans votre premier livre, l'homme et la nature sont indissociables.
Exactement. En fait, j'ai vraiment à cœur, surtout par les temps qui courent, de décrire encore sur le lien très fort qu'il y a entre notre environnement d'origine. Comme je vous le disais tout à l'heure... Donc la période du Solutréen durait 5000 ans, on est là que depuis 2000 ans, l'ère moderne, entre guillemets. Et la nature était là bien avant nous, elle a fait des choses, elle en fera d'autres. Espérons qu'on l'aide à préserver cet univers et que nous, on prenne conscience qu'on en fait partie, tout simplement, qu'on n'est pas ennemi de la nature, mais qu'on doit la respecter pour qu'elle puisse continuer à emmener nos générations futures vers la suite.
Alors, lorsqu'on connaît la dureté de la vie et des combats de la résistance dans le Haut-Bugey, c'est facile de raconter une histoire, une romance et d'y trouver un peu d'espoir et d'amour.
Alors oui, justement, dans mon roman, il n'y a pas que des faits durs et violents, même si je ne les ai pas édulcorés, si vous voulez. Il y en a que je n'ai pas cité, que j'aurais pu, notamment... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après, le nombre de viols qui se sont produits. Et là, c'est vrai que la femme, comme à la préhistoire d'ailleurs, n'a pas forcément la part belle, puisqu'on soit on n'en parle pas, soit on en parle très peu. Il y a eu des exactions sur la population féminine de la région très, très, très importante. Et ça fait froid dans le dos. J'ai lu des documents a posteriori qui m'ont glacé. Même à la préhistoire, c'est pareil. D'ailleurs, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la place de la femme à la préhistoire, c'est un thème qui m'intéresse aussi. Je suis en train de lire sur ce sujet actuellement. Et donc, sous le ciel rouge de juillet, une histoire d'amour entre ce jeune agent du SOE et une fille de paysan de la région de Nantua. Et ça nous porte aussi, avec plein d'espoir, vers une belle finalité du roman, on va dire. Puisque j'essaye toujours d'avoir des fins positives et optimistes.
Les photos, donc celles de la couverture et à l'intérieur du livre, sont signées Valentine et Thibaut de Bise.
Oui,
après le beau-père, les enfants, oui. La transmission, c'est important pour vous?
Oui, c'est important, c'est dans les tripes, c'est dans l'ADN. Mon petit Cago, c'est mon petit-fils et je me fais fort de citer Liana, ma petite-fille, et mon autre petit-fils, Léandre, dans les prochains, même si c'est la préhistoire, pourquoi pas, peut-être.
Avec vos romans, vous avez envie de laisser une trace aux générations futures et pas seulement à la vôtre.
Oui, je pense que le plus bel héritage qu'on puisse laisser, c'est pas le matériel, finalement, c'est des idées, c'est des pistes. Qu'ils puissent s'approprier après coup et que papy aura pu leur donner, tout simplement.
depuis que vos romans sont parus, vous avez fait quelques séances dédicaces lors de salons et librairies. Vous étiez adepte de ce genre de manifestation lorsque vous étiez simple lecteur. Vous alliez à la rencontre des autrices et des auteurs?
J'avais été au Salon du Livre à Paris un jour. C'était au Grand Palais, ça m'avait impressionné. Mais non, sans plus, et je dois dire que je suis toujours un peu mal à l'aise dans les salons, puisque, en fait, on doit présenter son livre, mais on doit aussi, parce que nos éditeurs ne sont pas des mécènes, on doit faire vendre les livres. Et pour cela, il faut mettre en avant le roman pour qu'il puisse attirer l'œil du chaland ou du badaud. Et même si je suis technico-commercial de formation, quand je suis dans mon univers d'écrivain, j'ai toujours du mal à faire l'approche du passant. Alors j'ai trouvé un subterfuge. J'ai fait fabriquer deux bâches qui sont les quatrièmes de couverture de mes deux romans que je mets à côté. C'est des grandes bâches qui mesurent à peu près 1,50 m de haut. Et tout simplement, si les gens veulent lire le résumé, eh bien, il est à côté de moi. Je leur dis, lisez-le si vous le souhaitez. Je suis là pour vous en parler plus durant la journée.
Alors, depuis que vous êtes auteur, de l'autre côté de la table, comment le vivez-vous? Ça fait quoi d'être auteur?
Alors, au début,
romancier historique, pardon.
Oui, Michel, tout à fait. Alors, au début, je me sentais complètement illégitime, pas par rapport au public qui passait dans les salons, par rapport à mes collègues écrivains, auteurs, j'avais l'impression d'être complètement illégitime. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, il y a des codes. C'est un peu comme dans tous les métiers, il y a des codes et tout. Et mon éditeur, l'Astre Bleu, m'avait dit, tu verras, Philippe, dans un salon du livre, tu as 10 prix Goncourt, ou qui se considèrent comme tels. Et puis, alors, en fait, eh bien... ils m'ont fait prendre ça un peu comme un jeu. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup ri dans mon fort intérieur également. Et puis après, j'ai appris à découvrir cet univers qui est un univers particulier quand même.
Ouais.
Voilà, mais qui est un bel univers.
Oui. Alors maintenant que vous avez attrapé le virus de l'écriture, votre troisième roman est en cours.
Ça y est, on y vient.
On y vient.
Écoutez, je profitais de cet instant, de cette invitation que vous m'avez fait fort aimablement pour dire officiellement que mon troisième roman sera présenté à un éditeur. J'espère que ça sera L'Astre Bleu. Pourquoi pas faire une trilogie? Et ça sera sur un thème qui m'importe, c'est la place de la femme dans la préhistoire. Puisque a posteriori, les gens m'ont dit, Philippe, ton premier livre appelle une suite. Bon, moi, j'ai dit non, il n'y aura pas de suite. Je vois pas pourquoi je ferais une suite. Et puis, de fil en aiguille, mon imagination aidant. Et lisant aussi toujours des livres sur la préhistoire et notamment sur la place de la femme dans la préhistoire et d'autres livres, je me suis rendu compte que les chasseurs-cueilleurs, les fameux chasseurs, ne revenaient toujours pas toujours avec du gibier à la maison. Et c'est souvent la femme qui remplissait le frigo en allant chasser des petits animaux ou en cueillant avec les enfants. Et en plus, elle chassait aussi même des gros animaux. C'est ce que j'ai appris par le biais des historiens, notamment espagnols, qui sont très, très brillants. Et c'est... Pour le solutréen, en tous les cas, c'est les archéologues et les spécialistes espagnols qui ont le plus de potentiel, tout simplement parce que c'est là-bas que le solutréen s'est développé le plus, de l'autre côté des Pyrénées, vers la grotte d'Altamira, au-dessus de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'irai d'ailleurs un de ces jours visiter toutes ces grottes. Et finalement, on s'en rend compte que la femme avait un rôle central, puisque dans le clan, il y avait le chef, il y avait le chaman, qui était plus un petit peu, le, on pourrait dire, le curé de l'époque. En tout cas, il n'y avait pas de religion à l'époque, mais il avait le côté spirituel en main. Et il y avait aussi la mère, la druide, la femme druide, un petit peu, qui savait, qui était aussi la guérisseuse, qui connaissait les plantes et qui pouvait soigner les gens blessés, malades, etc. Et qui avait une parole très forte vis-à-vis du chef et du chaman. Elle était respectée. Et puis donc, je me suis dit, de fil en aiguille, alors c'est vrai que l'actualité s'y prête aussi, on parle beaucoup de la place de la femme dans la société, et j'ai décidé d'écrire, toujours sur la période solutraine, du paléolithique supérieur, mais un roman plus... alors, ça sera toujours un roman avec une énigme, avec une trame... un petit peu un roman policier quelque part, puisque sur le premier c'était déjà ça, avec ce fameux silex qui passe de main en main et qui va atterrir au musée des Ursulines à Mâcon. Mais bon, la suite est, on va dire, le synopsis de la suite est dans ma tête, il est même sur le papier et il n'y a plus qu'à.
Bien. Allez, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicace, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties de les propositions de la quinzaine et les prochaines séances dédicaces. Philippe, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» C'est sur la préhistoire, toujours, de Roy Lewis. Il est paru en 1960. Et en fait, c'est un roman fait par un Américain qui parle de la préhistoire, de l'évolution et des questions que pouvaient se poser les hommes préhistoriques, mais en leur donnant des prénoms contemporains comme Édouard, Roger, etc. Et on se met à vivre parmi ces gens qui se posent des questions sur le travail, sur le couple, sur l'évolution de la société, comme si on était parmi eux en train de manger un morceau de renne ou de yak autour d'un feu dans une grotte. Et c'est excellent, à tel point que des spécialistes comme Juan Luis Arzuaga, qui est vraiment la référence de la préhistoire du solutréen en Espagne, a dit que c'était un bouquin référence, ce qui est complètement incroyable. Et en plus, il est très, très rigolo, mais ça fait poser plein de questions essentielles. Donc, c'est celui-là. Pourquoi j'ai mangé mon père ?
Bien. À côté proposition de la quinzaine, notons le livre de Yannick Descharmes, Petite psychologie de l'apéro, aux éditions Henrik B. Le thriller d'Anixia Carrier, L'affaire Pénélope Marche, aux éditions Cubic. Le livre de la grande Sophie, la chanteuse Tous les jours, Suzanne, aux éditions Phébus. Le thriller de Charie Lapena, Le mensonge de trop, aux éditions Presse de la Cité. Le livre de Vincent Jarousseau, Dans les âmes et les urnes, aux éditions Les Arènes. Le roman de Martine Delhomme, Une vie d'amour et de haine, aux éditions Presse de la Cité. Le livre de Johan Chapoutot, Les Irresponsables, aux éditions Gallimard. Le roman de Benoît Daluin, Un cri dans l'océan, aux éditions XO. Le polar de Rachel Kuchner, Le lac de la création, aux éditions Stock. Et le livre de Marie Baléo, Les Empoisonneurs, aux éditions Grasset. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres de séances dédicaces. Philippe, avez-vous... Oui, vous avez une date à nous annoncer, même si moi j'allais l'annoncer quand même.
Oui.
Plusieurs.
Dans plusieurs. Demain déjà, je suis en dédicace à la bibliothèque d'Arban.
Le vendredi 21 février.
Voilà. J'ai été invité par les membres de la bibliothèque. Voilà. Et puis,
de 19h à 21h.
Tout à fait.
À 20h. Merci beaucoup,
à Arban, donc voilà. À côté de Yona. Mm-hmm. Et puis après, il y aura le Salon du Livre de Nantua, les 23 et 24 mars. Hein, c'est le deuxième plus gros salon du livre dans l'Ain, après Attignia, oui. Hein, qui est le salon de Bourg, on va dire. Donc voilà, donc chacun sa place. Beaucoup, beaucoup d'auteurs de l'Ain. Alors je pense que c'est un département inspirant. Et d'ailleurs, le best-seller des écrivains en France, c'est Mélissa Dacosta. Elle est de Replonge, donc mon village d'origine.
Même si elle ne parle pas beaucoup de l'Ain, je pense.
Elle ne parle pas beaucoup de l'Ain, mais
non,
en tout cas,
non.
Elle est de chez nous.
Oui, mais quand même.
J'espère qu'elle en parlera.
Exactement. Alors moi, je vous rappelle, j'ai noté aussi le samedi 22 février à la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse, Christian Tisserand de 15h à 18h. Et le samedi 1er mars, une grande date pour nous, en tout cas à la librairie Zanini à Bourg-en-Bresse. C'est le grand retour d'Antoine Renan, que vous connaissez.
Ah,
Non. Il est de Bourg, il a écrit, si vous connaissez l'Empathie 2, c'est lui, c'est Antoine Renan, de 14h30 à 17h30. Si vous aimez les polars, thrillers, voilà. C'est Antoine Renan qu'on recevra prochainement, quand il aura un moment. Voilà. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Philippe Debise, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Et surtout, lisez les livres édités par les petites sociétés d'édition régionales. Et on a vraiment des sociétés comme l'Astre Bleu, je le redis. Merci à eux et longue vie à eux.
Rappelons que donc, vos deux romans, L'enfant de Solutré et Sous le ciel, Rouge de juillet, Mondain, été 1944, sont parus respectivement le 27 février 2023 et le 16 avril 2024 aux éditions L'Astre Bleu et dans la collection Helium.
Oui, tout à fait.
On peut s'y procurer où ?
Alors, dans toutes les librairies, on peut les commander à la FNAC, à Cultura, etc. S'ils ne sont pas en présentation, ils sont sur commande, ils sont référencés dans toutes les librairies et les pôles librairies dans les grandes surfaces de culture, voilà. On va dire. Voilà.
On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Tout à fait.
Oui,
tout ça, celui des anciens.
Voilà, c'est Facebook.
Facebook, allez.
Voilà. Le prochain invité de Roman de Gare le jeudi 6 mars 2025 sera l'auteur ligérien de cœur et indinois d'adoption, Franck Martin. Ça vous dit rien ?
Non.
Pourtant, il présentera les 4 volumes chroniques d'un supporter stéphanois, chronique d'un supporter ordinaire, mais bon, c'est stéphanois, paru entre le 14 avril et le 8 mai 2023, édito de chaque match des Verts entre 2004 et 2017. Ça fait 2000 pages.
Respect.
Ces chroniques vous permettent de revivre lentement les exploits et déboires de l'ASSE. Vous avez bien connu de
notre... C'est toute ma jeunesse.
Pareil, voilà. Voilà, donc c'est écrit par un supporter sans autre qualification. Ce livre se lit comme une série télé.
Parfait.
Voilà, on parle de série, on parle de saison, voilà, c'est la même chose, c'est du foot. Enfin, à l'époque, c'était bien. Bon, Philippe, bonne chance pour la suite de vos aventures d'écrivain.
Merci de votre accueil.
De romancier historique, voilà, j'ai
tout
noté.
Tout à fait, bravo.
Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
Merci Michel.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.